Bien, si vous voulez bien, nous allons aborder cette dernière partie de la journée. Donc, merci d'être aussi nombreux pour cet hommage collectif que nous avons tenu à observer pour Gérard de Cherff. Alors, je vois que vous êtes très nombreux à avoir envie d'entendre ce que nous avons à dire, mais je crois avoir compris que vous êtes aussi très nombreux à avoir envie d'intervenir et de dire quelque chose autour de Gérard, l'importance qu'il a eue pour vous, importance théorique, importance affective. Donc, nous sommes six là, sept avec moi, et donc on a décidé de parler assez peu de temps pour vous laisser le temps à tous ceux qui le désirent de s'associer à cet hommage collectif. Et pour ma part, je voulais simplement débuter en fixant quelques adjectifs qui me paraissent bien correspondre à Gérard. Et pour savoir comment les organiser, je me suis appuyé sur les lettres de son prénom et de son nom, Gérard de Cherff. Donc j'ai retenu que Gérard, dont le prénom commençait par G, était grand. Voilà, Gérard était élégant. Gérard était réceptif à ce qu'on pouvait lui dire, à ce qu'il pouvait entendre. Gérard était un artiste, comme vous l'ont rappelé certaines images qu'on vient de voir, comme vous le rappelle la couverture de ce livre. Il aimait la peinture, il en faisait beaucoup, surtout à la fin de sa vie. Gérard avait un R dans son prénom parce qu'il était rêveur, et le prénom de Gérard se terminait par un D parce qu'il était délicat. Et du côté de son patronyme, les choses sont intéressantes aussi. Gérard s'appelait De Cherff, donc D, parce qu'il était drôle, c'est vrai. On est nombreux à l'avoir, en avoir profité. Il était éloquent, on s'en souvient quand il intervenait. Il était courtois. Et puis surtout, le H de son patronyme, il était humain. Et on peut y accoler aussi, puisqu'après le H de son patronyme, il y a un E dans De Cherff. Il était empathique et puis il était rassembleur. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on est si nombreux aujourd'hui, pour lui rendre hommage. Et puis il était, ça vous étonnera pas que je termine par là, par le F de son patronyme, il était fraternel. Voilà donc quelques repères qui, j'espère, vont résonner dans ce qui va vous être dit maintenant. Donc nous allons respecter l'ordre qui est indiqué sur le petit papier. On va d'abord entendre Anne-Marie Blanchard, puis Alberto Egger, puis Christiane Joubert, Laurence Knera, et ensuite on entendra Claire Lapierre pour garder la dernière intervention à Elisabeth Darchy, qui a joué un rôle considérable dans la décision de cet hommage, mais aussi dans la fabrication du livre, qui est pas toujours facile de fabriquer un livre, surtout dans un délai aussi court, et donc pour lui rendre hommage en quelque sorte de son travail autour de Gérard, je pense que c'est logique qu'elle intervienne en dernier, avant vos propres interventions, encore une fois, puisque nous ne sommes là que pour amorcer en quelque sorte cet hommage. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Anne-Marie Blanchard, qui va donc nous parler de Gérard de Cherff.
Pas avec autant d'humour que toi, je dois dire. Je vais quand même essayer de respecter le programme et d'essayer d'exprimer, mais je trouve ça bien difficile, de parler de quelqu'un avec lequel j'ai travaillé pendant plus de 30 ans, ce qui fait que Serge Tisserand nous avait dit qu'on devrait parler de souvenirs, mais 30 ans de souvenirs, ça fait beaucoup, donc je vais plutôt essayer de vous dire ce qui me semble avoir marqué notre travail commun. Et j'insisterai sur un certain nombre de points rapides, vu le nombre qu'on est, notamment d'abord sur notre rencontre. Je pense que la rencontre entre des co-thérapeutes est un moment très important qui va orienter, nourrir, je dirais, peut-être nourrir plutôt la suite du travail. Il faut d'abord se rencontrer, et se rencontrer, c'est pas tellement évident. Ça se fait pas sans un certain nombre, j'allais dire, de précautions qui permettent à chacun de prévoir, de prédire si un travail va être possible et comment il va s'orienter. Autrement dit, il y a une sorte d'alliance spontanée et, je dirais, quasi immédiate qui sera à travailler au fur et à mesure du temps, mais qui marque un moment d'une rencontre. C'est à partir de là que va pouvoir se construire, par un travail, se construire un lien. Donc le premier moment est un moment où on va ressentir, dans les meilleurs cas, une certaine affinité qui est difficile à définir, même si il y a toujours dans la rencontre un certain nombre d'éléments extérieurs qui expliquent que ce soit tel couple de thérapeutes qui se forme, qui se construit plutôt que tel autre. Je pense par exemple que dans ma rencontre avec Gérard, il y a eu des circonstances que je dirais une chance extérieure qui tenait à ce que au moment où nous nous sommes rencontrés dans une institution où nous travaillions tous les deux et où ont été introduites les thérapies familiales, il s'est posé la question de savoir avec qui travailler et qu'il s'est trouvé que j'ai rencontré Jean-Pierre Caillot et Gérard Decherche et qu'on a fait équipe et que j'ai donc travaillé avec l'un et l'autre. Et je pense que la circonstance la plus superficielle et extérieure venait de ce que j'avais été quelques années auparavant cooptée par mes collègues du CEFRAP, que j'avais donc une expérience de ce que c'était que le groupe et de ce que c'était que la cothérapie, puisque dans cette association, nous menions des groupes toujours en couple ou en paire, et que donc je me trouvais avoir cette expérience. Et je pense que Jean-Pierre Caillot et Gérard Decherche étaient très intéressés par les travaux d'Anzieux et de Caes ou CEFRAP, et se sont rapprochés de moi, mais en partie parce que j'étais proche d'eux. Ces rencontres, c'est des rencontres qui sont à la fois singulières, mais surtout plurielles. Je fais allusion là au livre de Caes sur le singulier pluriel et le fait que on n'est jamais soit tout seul. En fait, on représente aussi nos groupes d'appartenance et d'autres liens que le lien qu'on va mettre en œuvre. Alors, si j'insiste sur la rencontre, je pense que dans cette rencontre qui nécessite donc pour la création du lien d'être vraiment tourner, d'investir bien sûr le travail, bien entendu, mais la personne de l'autre, d'être curieux de ce qu'il est et de la manière dont il pense, dont il ressent, et de s'y intéresser de près. Ça fait partie de ce que j'appellerais l'investissement de la rencontre. Il faut, dans un deuxième temps, être aussi capable d'abandonner, je dirais, ou de laisser dans l'ombre un certain nombre de ses préoccupations personnelles au profit de d'une préoccupation de l'ensemble. Qu'est-ce qui peut intéresser en même temps l'un et l'autre de ceux qui vont devenir d'écothérapeutes? J'insistais là sur le fait de l'intérêt qu'on avait, Gérard et moi, pour les groupes, les petits groupes, et la recherche sur les petits groupes. Alors moi, je n'entendais rien aux familles. J'avais travaillé dans cette institution depuis longtemps, mais on ne s'occupait pas à ce moment-là de la famille, mais plutôt dans une optique très individualiste. Donc j'avais fait du groupe ailleurs, et c'est cet intérêt-là qui nous a d'abord réunis. Alors je dirais ensuite d'être capable de ne pas, enfin, d'abandonner un certain nombre de ces sujets éventuellement préférés au profit de ce qui rassemble. Ce serait une deuxième exigence. Et je dirais, dans une troisième exigence, qu'il me paraît important de valoriser le fait de pouvoir être seul en présence de l'autre, dans le sens où Winnicott nous en a parlé, c'est-à-dire non pas d'être seul, mais d'être seul et solidaire à la fois. Et donc d'avoir en arrière-plan constamment la préoccupation ou le lien avec l'environnement. Peut-être le mot préoccupation est trop intense, parce que il faut aussi, dans un couple thérapeutique, avoir la possibilité éventuelle de ne pas communiquer, ce qu'on devrait arriver à pouvoir faire sans que ce soit gênant ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que c'est, je vais pas parler trop longtemps, hein, je pense que c'est dans ce contexte que on peut parler d'analyse intertransférentielle, c'est-à-dire que chacun des thérapeutes est amené, le plus spontanément, obligatoirement, je dirais, à investir son co-thérapeute et donc à projeter sur lui une partie de son propre monde interne, et tout ça dans la réciprocité. Et qu'il faut être, me semble-t-il, attentif à ce qu'on est susceptible de projeter sur l'autre, sachant que dans tout ça, il y a beaucoup de réactions inconscientes qui nous échappent. Et donc, c'est plutôt l'attention qu'on y porte que la connaissance qu'on en a qui me paraît importante. C'est dans ce contexte, je disais, que peuvent arriver à s'exprimer ce qui va souvent permettre d'interpréter dans la famille ou dans le groupe ou dans enfin dans les personnes dont on va s'occuper, c'est ce qu'on projette et ce qu'on reçoit de la part du collègue qui va aider à exprimer, à formaliser l'interprétation, la découvrir parfois, et surtout arriver dans le matériel dont on a la possibilité de parler ensemble, de découvrir ce qui va être le plus probant, le plus pertinent, et de trouver surtout les mots pour le dire, ce qui n'est jamais évident. Donc les interséances, je dirais, que ce soit avant, après, les interséances à deux sont extrêmement importantes, en plus que c'est une manière pour chacun d'entretenir le narcissisme de l'autre, et c'est très important dans les groupes, parce qu'on est souvent plus ou moins chahuté par ce qui s'y passe. On s'expose au transfert, et c'est parfois pesant et difficile de s'y retrouver aussi, et de pouvoir savoir ce qui est de l'autre ou de soi. Et je pense que c'est un travail qu'on fait déjà dans l'intertransfert, dans le couple de thérapeutes. Si bien que je dirais que le travail qu'on fait dans le couple n'est pas séparable du travail qu'on fait avec le groupe, mais au contraire, c'est comme un marchepied pour entendre et partager quelque chose du groupe.
Écoute, un grand merci Anne-Marie, vraiment. On aimerait entendre d'autres fois nous parler du transfert et du contre-transfert dans la cothérapie, et ça serait même bien que tu nous rédiges un petit mode d'emploi du choix de son cothérapeute. Parce que c'est vrai que c'est parfois difficile et on ne sait pas si on a fait le bon choix ou pas. Alors là, tu nous donnes des bons repères. Je m'aperçois que c'est aussi compliqué de choisir son co-thérapeute que de choisir son conjoint, finalement. C'est peut-être plus.
C'est pas sans analogie.
On va entendre maintenant Alberto Egger qui va nous parler de Ombre et lumière de l'esthétique.
Merci, Serge. Il est pour moi très émouvant de participer à cet hommage. Et je me suis dit, la meilleure façon, en tout cas, c'est un choix que j'ai pas compris tout de suite. Et je crois que c'était hier que je me suis rendu compte pourquoi j'avais choisi, c'est dans le livre, travailler sur le conflit esthétique, et qui a été la relation d'objets esthétiques. Et c'est le concept qui apporte Gérard Descherves. Et donc, pourquoi je me suis intéressé à faire cet hommage par la théorie et la pratique. Et voilà que je voulais vous dire donc en quelques mots, parce qu'on ne peut pas s'étendre beaucoup, et ce qu'il nous a apporté, et je disais dans ce texte qu'il nous apporte un peu plus de lumière dans la recherche psychanalytique qui n'est pas toujours très joyeuse. Et ça fait partie un peu de son profil. Il nous transmettait envie de vivre, il nous rendait un peu plus intelligents, comme dans tous ceux qui comprennent le lien, l'intersubjectivité et le groupe. Un peu ce qui a été souligné à l'instant. Et voilà que ceci s'est traduit par un certain nombre de concepts. C'était un grand théoricien. Et je pense que ces concepts apportent une dimension lumineuse, solaire, et au psychisme entre nous tous, qui nous hésitons entre, qui on hésite à admettre notre besoin de bien-être, de beauté, de joie et d'idéal. Et la relation d'objet esthétique, donc, parle de deux pôles, un pôle esthétique, une recherche du beau. Et un autre pôle, que c'est le pôle de l'anti-esthétique. C'est un peu la proposition qu'il nous fait Gérard, et qui coïncide aussi avec ce que vous avez vu sur les tableaux, qui ont toujours un côté lumineux, qui choisit parfois des couleurs inattendues, des contrastes très contrastés, mais qui nous produisent une impression. Et ces concepts nous invitent à réfléchir pourquoi on crée de la beauté. La beauté, pourquoi ? Et elle est concomitante de l'expérience de la relation avec l'autre, de la rencontre avec l'autre. La rencontre avec l'autre, tôt ou tard, nous confronte avec le sentiment qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui arrive, et cette quelque chose peut prendre la dimension du beau. Mais dans la compréhension de l'expérience esthétique, de la production esthétique du psychisme, et il l'a fait travailler avec son opposé, l'anti-esthétique, qu'il relie à la question essentielle de l'inconnu, de l'inquiétante étrangeté que nous éprouvons à l'intérieur de nous-mêmes et que nous incite, nous pousse à chercher, nous pousse à découvrir les énigmes qui existent à l'intérieur de nous-mêmes et qui existait aussi par la relation avec l'autre. Donc, l'esthétique apparaît comme le reflet de cette possibilité de trouver quelque chose, de trouver ce qu'il y a de compréhensible dans ce qui est incompréhensible, de trouver ce qu'il y a d'inhabituel et en même temps des révélateurs, d'admettre ce que à l'intérieur de nous-mêmes apparaît comme une nouveauté. Tout cela produit en nous un sentiment et révélateur de cette rencontre première entre notre subjectivité et la sensibilité de l'autre. Donc Gérard parlait beaucoup de sensibilité à l'esthétique, de la sensibilité à la découverte. Et c'est de cela que je parle dans ce texte, et c'est de cela que j'essaie de développer. Et puis je me suis aperçu hier, mais peut-être j'aurais pu m'assercir auparavant, que je vais beaucoup... je vais loin, plus loin que de ce qu'il avait dit Gérard, et peut-être je l'ai trahi. J'ai dit, peut-être dans un autre, j'ai dit des choses qu'il n'a pas imaginées, qu'il n'a pas dit, et que j'ai dit que c'est lui, mais peut-être que c'est moi, etc. Et qu'est-ce qui m'arrive de fonctionner comme ça? Et je me suis aperçu, c'est que c'était très lié à sa disparition, le fait qu'il ne pourrait plus jamais nous apporter des éléments, et que je me sentais un peu dans le désir, dans le souhait, de continuer sa pensée comme si elle était là avec nous et que je pouvais et qu'on pouvait partager avec lui comme on l'a fait plusieurs fois des idées, des échanges et sentir combien c'était cela stimulant. Merci de votre attention.
Merci Alberto de nous avoir éclairé sur cette facette un peu mystérieuse de la peinture de Gérard, hein, et l'importance finalement de se laisser aller à nos propres associations face aux œuvres qu'il nous propose. Alors on va entendre maintenant Geneviève Bréchon, on respecte l'alternance, il n'y a pas beaucoup d'hommes et de femmes à la table, mais on essaye quand même, et qui va donc nous parler de la rencontre de Gérard avec le docteur De Cinetti pour mettre en place une formation à Tours.
Donc ce que je vais vous transmettre ici, c'est aussi l'hommage du docteur De Cinetti, pédopsychiatre, psychanalyste, ancien directeur médical du CMPP de Tours, qui n'a pas pu être présent à ce colloque. Donc c'est dans les années 95-2000 que le CMPP de Tours, conscient des limites et des indications des thérapies d'enfants, mais conscient aussi de l'impact relatif du travail de soutien à la fonction parentale, c'est ce qu'on disait alors, décide sous son impulsion de développer le principe des thérapies familiales psychanalytiques. Une mise en place quelque peu sauvage fut d'abord envisagée. Deux thérapeutes recevaient une famille selon le principe de la libre association. Et à défaut de résultats probants, ce type de travail provoqua rapidement un certain engouement parmi le personnel spécialisé, psychologues et médecins psychiatres. Certains d'entre nous participèrent à des colloques organisés par la toute jeune Société de thérapie familiale psychanalytique où nous retrouvions avant leur scission ceux qui devinrent des maîtres à penser, Racamier, Anzieux, Alberto Heger et aussi Gérard de Scherff. Le CMPP semblait prêt à s'engager sur le plan de la formation et nous fîmes le choix de la Société de thérapie familiale psychanalytique d'Île-de-France dont Gérard de Scherff avait été un des présidents, le deuxième je crois. Le docteur De Cinetti fut chargé d'aller le rencontrer et il le reçut dans son cabinet de la rue Boulard à Paris. Et il nous faut souligner ici, à titre d'anecdote, que dans le CMPP où nous travaillons, un autre Boulard, le professeur Boulard, pédiatre, chef de service au CHU de Tours, fut un des fondateurs des CMPP dans les années 50. Le docteur De Cinetti rencontra, ça je le cite, un homme délicieux, qu'il accueillit dans un petit bureau chaleureux et confortable où flottait la douce musique d'une symphonie de Mozart. Il lui expliqua qu'il travaillait ainsi et que cette musique accompagnait parfois le travail avec ses patients. Avec beaucoup de sérieux, il lui demanda de préciser notre demande, son parcours d'analyste, ses références conceptuelles, l'histoire du CMPP et la façon dont nous avions commencé à travailler, félicitant au passage ce travail ébauché que nous considérions pourtant tous comme d'un grand amateurisme. C'est ensuite avec légèreté, humour et franchise qu'il lui parla du travail de thérapie familiale, émaillant son propos de multiples anecdotes cliniques. Il fut rapidement convenu d'un accord de principe Et il nous prime rendez-vous donc avec l'ensemble des personnes du CMPP qui voulaient travailler avec lui. Et donc nous rencontrâmes ainsi, sans doute en 98, on a essayé de rechercher la date exacte, on a eu du mal à la retrouver, Madame Blanchard, mais donc nous rencontrâmes Gérard, accompagné d'Anne-Marie Blanchard, dans le bureau du docteur de Cinetti pour une première journée de formation. Gérard de Scherff était un homme simple, remarquablement formé, tant sur le plan de la clinique que de la théorie, mais qu'il ne se laissait pas encombrer dans sa pratique par un excès de théorie qui l'aurait empêché d'écouter et de penser avec ses patients. Une fois par mois, donc, le scénario se reproduisait et nous assistions à l'extraordinaire connivence clinique qui l'unissait à Anne-Marie, saisissant de facto l'intérêt du binôme thérapeutique lorsqu'il fonctionne, saisissant aussi mieux que par de grands discours ce qu'il en était du transfert groupal et latéral entre les thérapeutes, de l'importance du cadre thérapeutique invariable. Ils nous ont fait tous deux découvrir par leurs interventions cliniques les concepts d'écoute groupale. Et ils nous rappelaient avec insistance les règles de restitution et de non-utilisation par les familles en dehors des séances des connaissances inconscientes de l'une de l'autre découvertes en famille. Je me souviens qu'à la fin de chacune de ces séances, Gérard de Scherff avait l'habitude de clore l'étude de cas présentée par un ou une collègue avec une formule dont il avait le secret, comme « Pour cette famille, on pourrait dire finalement, vivre ensemble nous rend fous, mais nous séparer nous tue. » Après quelques années, Chantal Diamante remplaça Anne-Marie Blanchard, Jean-Pierre Dumont remplaça Gérard de Scherff. Aujourd'hui encore, sous d'autres formes, la formation initiée par Gérard et Anne-Marie dure à Tours. Pour conclure cet hommage, nous voudrions mettre l'accent sur le grand savoir de cet homme, sa simplicité, son humour parfois décapant et sa grande humanité. Il savait appliquer à merveille ce que nous devons à Thomas Ogden, pardon. La psychanalyse s'invente à chaque séance et à chaque instant et avec chaque patient. Merci.
Merci beaucoup. Merci Geneviève. Alors, tu viens de nous rappeler fort opportunément cette phrase tellement connue, hein, en effet, de Gérard, qu'on peut décliner sous plusieurs formes, mais enfin, le sens est toujours le même. Hein, vivre ensemble nous tue et nous séparer nous ferait mourir. Voilà. Et donc maintenant, on va aborder justement avec Christiane Joubert l'approche de Gérard, l'approche théorique de Gérard, qu'il a appelée position narcissique paradoxale. Et je crois que ça a aussi quelque chose à voir justement avec cette formulation « vivre ensemble nous tue, nous séparer, nous ferait mourir ».
Alors, c'est avec beaucoup d'émotion, hein, aujourd'hui, donc, que nous rendons hommage à Gérard. Le livre qui vient de sortir sous la direction d'Elisabeth en témoigne. Gérard nous réunit tous encore aujourd'hui. Gérard a toujours favorisé l'union, le partage, la transmission. Je l'ai rencontré dans les années 80 dans le cadre de l'université à Grenoble où j'étais étudiante à l'époque, avec aussi bien sûr André Ruffio. Ensuite, lorsqu'on a mis en place les premières formations à la thérapie familiale psychanalytique, eh bien Gérard a participé avec nous plein d'élan pour transmettre ses avancées scientifiques et toujours faire partager son expérience clinique. À son contact, eh bien oui, on se sentait intelligent. Et c'est souvent ce qu'aimaient à dire aussi nos collègues en formation. Hein, ça, c'est quelque chose que j'évoque beaucoup dans la rencontre avec lui, puisque très souvent, les personnes que nous avions en formation le remerciaient et disaient cela pour le remercier. Alors j'ai choisi, moi, pour rendre hommage à Gérard dans cet ouvrage, de reprendre effectivement la position narcissique paradoxale, cette position psychique très régressive, archaïque, qu'il a développée avec son collègue Jean-Pierre Caillot, hein, au moment où il était à la Psygé, hein, la période dont tu parlais, Anne-Marie. avec effectivement cette célèbre phrase hein, qu'on vient de reprendre, « Vivre ensemble nous tue, nous séparer est mortel ». Alors, bon, je ne vais pas développer ici ce concept que vous trouvez très bien développé dans ses travaux, dans son ouvrage hein, sur la thérapie psychanalytique du couple, bien sûr, avec Jean-Pierre Caillot, que vous trouvez aussi dans ce livre. Mais pourquoi j'ai choisi ce concept? Parce que ce concept, on l'a beaucoup travaillé ensemble aussi au cours de nos rencontres, on en parlait beaucoup à l'époque, et pour moi, très vite, ce concept a été très pertinent dans la clinique. Dans la clinique avec les couples, bien sûr, hein, le vivre ensemble nous tue, nous séparer est mortel, ces positions impossibles, ces couples qui fonctionnent sur des modes paradoxaux, aussi avec les familles, bien sûr, et moi je l'ai retrouvé beaucoup aussi avec les familles que je rencontrais dans le cadre de l'hôpital, c'est-à-dire aussi bien lorsqu'il y avait par exemple un enfant handicapé, lorsqu'il y avait un patient âgé démentifié dans ma clinique de gérontopsychiatrie. Gérard a toujours été pour moi une personne ressource. Il a fait partie de mon jury de thèse à l'université, c'est-à-dire que je témoigne là aussi de ses activités universitaires, puisque Gérard était engagé aussi auprès des étudiants et dans la formation universitaire. Donc il a fait partie de mon jury de thèse. Il est resté une personne ressource pour moi dans le cadre de l'université jusqu'à mon HDR en 2013. C'est-à-dire que très souvent, nous partagions effectivement des réflexions théoriques. Il m'aidait beaucoup dans mes hypothèses. Il m'encourageait à continuer. Je me suis toujours beaucoup appuyée sur ses travaux. Et sa pensée, effectivement, est toujours là. Notre rencontre a été profondément gravée en moi. Et son souvenir m'accompagne désormais. Je lui adresse personnellement un immense merci parce qu'il a beaucoup contribué à mon développement personnel, comme je pense avec beaucoup d'autres personnes qu'il a formées, et également, évidemment, à ma carrière. Voilà. Il était pour moi une personne ressource, et je crois qu'aujourd'hui, ce qui va beaucoup me manquer, personnellement, c'est qu'il ne sera pas là avec nous pour conclure les colloques, comme il savait si bien le faire, avec poésie, avec créativité, avec humour aussi. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui est très émouvant parce que je pense qu'il va beaucoup nous manquer aussi autour de ce rassemblement-là. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Christiane. C'est vrai, tu mets des mots sur des choses qu'on ressent tous. C'est vrai que la manière dont il clôturait les colloques était inimitable et inoubliable. Alors, en t'écoutant, je me suis penché à côté d'Anne-Marie et par rapport au fameux concept de Gérard, vivre ensemble nous tue, nous séparer, nous ferait mourir. En me penchant à côté d'Anne-Marie, je lui ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de couples comme ça. Et Anne-Marie m'a répondu, oh, mais nous sommes tous un peu comme ça, finalement. Voilà. Donc, je vous le livre, c'est une réflexion existentielle hein, qui peut-être peut éclairer d'un jour un peu différent, ce qu'on a peut-être trop tendance à considérer comme une pathologie de certains couples et qui est en fait quelque chose qui nous accompagne chacun tout au long de la vie. Voilà, donc maintenant on va écouter Laurence Knerat qui va nous parler d'une autre approche théorique importante, très importante de Gérard, qu'il a appelée la défense oméga.
Oui, merci ça. Alors, comme la plupart d'entre nous, j'admirais la créativité clinique et théorique de Gérard de Scherff. En effet, il savait créer avec un bonheur. J'ai un truc là, machin. Qui marche pas ? Le bidule marche, d'accord.
Il paraît énorme, mais ça marche.
Le bidule marche, d'accord. Donc je disais, il savait créer avec un bonheur évident et souvent de façon jubilatoire des concepts qui étaient toujours profondément enracinés dans la clinique. Il était ensuite attentif au destin de ces concepts, notamment leur utilité. Il se demandait, est-ce que ces concepts, ça va aider les patients? Est-ce que ça va être utile pour les collègues, pour les thérapeutes? Cela lui importait d'avoir un retour par le biais d'autres regards portés sur ses idées, transformés par la pensée de l'autre, qui aussitôt l'inspirait pour de nouvelles idées, et ainsi de suite. C'était un mouvement perpétuel de création. Ses pensées entraient en écho avec celles des autres et s'accordaient avec fluidité. C'était facile et réjouissant. Et encore une fois, extrêmement jubilatoire, cet accordage des pensées avec Gérard de Scherff. Il disait souvent, à l'occasion de nos thérapies de couple ou de famille, « que pour vivre en couple ou pour être parent, il fallait supporter à la fois les angoisses d'étouffement et les angoisses d'abandon. Il repérait les points de nouage dans lesquels était empêtrée la pensée des uns et des autres, du couple et de la famille, avec bonhomie et aussi avec un talent particulier pour les fonctionnements indifférenciés. Il percevait de façon quasi instinctive, hein, si j'ose dire, les traces de tel mode de fonctionnement, narcissique primaire, confusionnel, paradoxaux, tant il en avait une connaissance et une compréhension aiguë, que ce soit en clinique, individuelle, du couple ou de la famille. Il pouvait les débusquer sous toutes les modalités possibles de lien, à travers une multitude de figures cliniques. Il donnait beaucoup aux patients, il explicitait, il proposait des étayages, des images, des supports de pensée, en croisant, articulant, mettant en tension les mouvements des uns et des autres, les mouvements psychiques, les mouvements conscients et inconscients, d'une manière telle que je pouvais me le représenter comme un chorégraphe de l'inconscient du couple et de la famille. Gérard de Cherff et André Ruffio s'étaient retrouvés autour de ces idées sur l'indifférenciation primaire comme nombre de thérapeutes familiaux. Poussant ce concept plus avant, ils sont arrivés à l'oméga, la fonction et les familles oméga. La fonction oméga, c'est un terme proposé par Gérard de Cherff qui désigne une fonction de survie, alors que la fonction alpha, comme vous savez, est la fonction de vie par excellence. Ils ont recentré leur compréhension de la clinique dans les années 1996 autour des angoisses de mort que Gérard de Cherff appelait aussi angoisses de survie. Ces deux auteurs étaient particulièrement sensibles à cette question de la survie et à ces familles hantées par la mort, vivant, disait-il, un côtoiement psychique constant avec la mort. Théorie qui faisait suite, comme vous savez, aux notions de violence fondamentale de Bergeret en 1984, bien sûr. À la même époque, je m'intéressais à la névrose d'abandon familial et à son fonctionnement traumatique, même traumatophile, notion qui entrait complètement en résonance avec ses développements sur l'environnement primaire anti-maternant des familles oméga, d'où notre rencontre et notre intérêt commun pour ces problématiques familiales abandonniques et oméga. Dans le livre écrit sous son impulsion avec Elisabeth Darchy et moi-même, « Souffrance dans la famille », nous avons prolongé cette intuition de Gérard de Cherff sur le rôle joué par les angoisses de mort. Nous avons pris le parti de désigner les toutes premières angoisses sous le terme d'angoisse de mort afin de mettre en relief d'une part l'aspect invasif, soudain et violent de la détresse primitive à la naissance d'une part et d'autre part le caractère d'urgence vitale, de nécessité totale pour le nouveau-né de rencontrer un environnement maternant apte à contenir et à transformer de telles éprouvées. Je trouvais, et je trouve toujours audacieuse, l'idée de comprendre les angoisses originaires comme des angoisses de mort, de la même façon que je trouve originale et audacieuse l'idée de l'existence d'un double mouvement pulsionnel dès la naissance, un versant pulsionnel de vie qui se double d'un versant pulsionnel de survie. Et les angoisses primaires peuvent alors être comprises comme participant de ce mouvement pulsionnel de survie tant l'idée de la mort est présente à la naissance. La survie, ou oméga normal, est donc la confrontation sans doute inévitable aux angoisses de mort existant dès la naissance, la mort réelle toujours possible. L'indifférenciation se présente alors comme la défense familiale par excellence contre de telles angoisses. Ce mode de raisonnement de Gérard de Cherff et depuis d'autres thérapeutes familiaux, hein, ce mode de raisonnement, de compréhension de la clinique familiale, insuffisance de réduction des angoisses de mort, par inefficience de la fonction alpha et recours défensif à l'indifférencié, permet d'éclairer, me semble-t-il, bien des situations dominées par des mouvements régressifs, confusionnels, souvent destructeurs et paradoxaux. Cette idée de poser la survie dans le déroulement pathologique, mais aussi et surtout dans le déroulement normal et habituel du développement des liens familiaux, était pour moi tout à fait passionnante et elle allait dans le sens de ce que j'avais cherché à mettre en valeur dans l'abandonnisme familial. C'est-à-dire que quelque chose de la vie qui est contenu dans le soi familial, qui est cet autre concept primordial pour moi d'Albert Heuger, Donc quelque chose de la vie ne va pas de soi, ne se soutient pas, ne s'inscrit pas dans le lien familial. Donc vous l'aurez compris, travailler ensemble avec Gérard de Schaff aura été pour moi une chance immense, une rencontre déterminante, dans une complicité que je peux perpétuer avec vous et grâce à vous, à travers ce très dynamique et généreux héritage conceptuel. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Laurence, d'avoir éclairé le caractère opératoire des défenses Oméga. Et puis aussi, tu as raison de le dire, hein, je te cite, le caractère original, audacieux de cette construction de Gérard. Alors, merci aussi d'avoir apporté des mots nouveaux qu'on n'avait pas encore utilisés à son sujet. Tu as parlé d'accordage. En effet, on pense aux travaux de Daniel Stern, mais c'est vrai que l'accordage est vraiment important à la fois dans la personnalité de Gérard et dans sa pensée. Tu as parlé de tuteur de pensée et puis tu as parlé d'étayage, et c'est justement maintenant d'étayage dont va nous parler Claire Lapierre.
Merci. Je remercie tout d'abord les organisateurs du colloque de m'avoir sollicité pour témoigner dans cet hommage à Gérard de Schaff, de son implication et de son aide dans la mise en place de soins en thérapie familiale dans un centre hospitalier spécialisé à Auxerre, où je travaille maintenant depuis plus de 20 ans. C'est Alberto Egger, le premier, qui est venu pour animer un groupe de formation supervision en 1986, je crois, remplacé ensuite par Gérard de Schaff à partir du début des années 90. Et il y est venu jusqu'à l'orée de 2010, à peu près, c'est-à-dire pendant pratiquement 20 ans. Il y est venu d'abord seul, puis en co-formation de 2000 à 2007 avec Elisabeth Darchy, puis avec Daniel Kemener jusqu'en 2010. À sa suite, sont venus travailler et travaillent toujours actuellement auprès de groupes dans notre institution, Daniel Kemener et Edé Popper. Monsieur de Scherf pensait qu'il était très important de diffuser les concepts de thérapie familiale psychanalytique et de faire vivre les soins en TFP dans les institutions. Il n'oubliait pas l'institutionnel, conscient des enjeux pour les nombreuses familles que nous recevons et pour le maintien de la dimension psychanalytique et familiale dans la psychiatrie publique, ce qui nous paraît constituer un enjeu de taille pour l'avenir. Il avait envie de transmettre, de former, de diffuser les concepts de TFP. Il a su dynamiser notre groupe, créer une émulation et un intérêt groupal qui lui a permis de perdurer et d'occuper une place institutionnelle avec une reconnaissance par cette institution. Elle a suscité l'intérêt de nouveaux participants au fil des ans, nous amenant à organiser des groupes de sensibilisation successifs qui ont permis ensuite aux soignants de pouvoir intégrer le groupe de supervision. Il a également permis de faire venir plusieurs membres de la société pour animer des soirées destiné aux professionnels du département, Alberto Egger, Elisabeth Darchy, Anne Bergeron, Yépi Lorge, Christiane Joubert, Daniel Kemener, Bernard Savin, et je m'excuse par avance si j'en ai oublié certains. Je voudrais souligner également ses grandes qualités dans l'animation groupale, sa présence, sa contenance, sa simplicité, sa tolérance, son attention à chacun, ses qualités empathiques et son humour, tout cela nous a marqués au fil des ans. Il nous a beaucoup appris de par la pertinence de ses concepts, qu'il aimait nous présenter au détour de ses ouvrages, de ses articles, de ses recherches, des illustrations qu'il en trouvait dans nos récits en clinique, la parentalité confuse, la contenance, l'environnement oméga et l'étayage sur la violence, la relation d'objets anti-esthétiques, mais aussi ses réflexions sur la tyrannie dans la famille et le générationnel et le syndrome du Munchausen par procuration. Il nous montrait une grande clarté d'esprit, une capacité extrêmement importante et étonnante à théoriser à partir d'une clinique toujours très observée et comprise de façon très fine. Il n'était pas dans le dogme, et il reliait toujours ses recherches avec celles de ses collaborateurs et avec celles d'autres auteurs auxquels il se référait très souvent, et Racamier, Caillot également. Il articulait ses élaborations avec les leurs, il cherchait à faire des liens il s'en suivait toujours une très grande créativité. Il se proposait de mettre au service des soignants les concepts de TFP, de les aider à comprendre quelle est l'importance des liens familiaux dans la clinique au quotidien, en hospitalisation comme en ambulatoire, en psychiatrie adulte ou en pédopsychiatrie. En d'autres termes, il nous aidait à penser le familial dans le soin aux patients, et cela même si un cadre de soins familial n'était pas encore installé, car le patient porte sa famille en lui. Pour les soignants de l'institution, dont certains suivaient les enfants, d'autres les parents sont eux-mêmes des enfants issus d'autres parents, le groupe leur a permis de pouvoir élargir leur vision vers la dynamique de la famille, de prendre en compte le patient et la dynamique de la famille. C'est une fonction comme un enveloppement, fonction de rassemblement qui s'opère en direction des familles en souffrance et qui s'oppose au morcellement sans vision globale qui peut guetter les processus de soins non pensés ensemble dans les institutions. Ce faisant, le travail d'élaboration des soignants s'est rapproché de la réalité du psychisme des familles. Gérard Decherf nous disait souvent que nous devions prendre les familles là où elles en étaient, et souvent nous amenant à remarquer qu'elles étaient dans un fonctionnement plus indifférencié que ce que nous pensions, pour les amener à plus de différenciation. Il nous disait très souvent également que le but de la thérapie familiale est d'aider à la différenciation des psychés à l'intérieur de la famille. Il nous aidait également à penser le soin pour des familles peu demandeuses, difficiles, pour lesquelles nous peinions à trouver des propositions de soins adaptées. Il nous rendait proches des familles, nous amenant à co-construire avec elles un cadre dans la continuité pour leur faire franchir une étape, pour libérer des forces vivantes en elles, pour les aider à sortir de l'engluement ou du chaos. Notre organisation soignante en regard des familles nous questionnait. Comment lier les dimensions infantiles et parentales? Comment communiquer et travailler ensemble entre soignants d'adultes et d'enfants? Comment articuler les soins individuels et familiaux? Et également en institution, comment installer une cothérapie entre soignants qui sont liés par une hiérarchie? Et également, comment arriver à concilier notre rôle institutionnel et notre rôle de thérapeute? Pour toutes ces questions, Gérard Decherf nous a beaucoup aidés, soutenus, éclairés. Il nous a encouragés à poursuivre ce qu'il a semé. Nous souhaitons lui rendre un hommage mérité pour sa brillance intellectuelle alliée à sa modestie, reliée à son sens des relations humaines et à son empathie, ainsi qu'à l'observation au plus près de la réalité clinique et des interactions entre famille et thérapeute dans la dynamique du soin.
Merci beaucoup, Claire. De tout ce que tu as dit, parce que tu en as dit beaucoup, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, prendre les familles là où elles en sont. On pourrait dire prendre les patients là où ils en sont, prendre les gens là où ils en sont. Voilà. Et j'ajouterais ne pas leur demander plus que ce qu'ils ne peuvent faire ou apporter, mais leur demander tout ce qu'ils peuvent faire ou apporter. C'est dans cette estimation souvent que la cothérapie est utile pour réduire les effets de nos transferts. Alors, tu as évoqué aussi très justement l'importance du travail institutionnel pour Gérard. Le patient porte sa famille en lui, ben les soignants aussi portent leur famille en eux. Et puis, prendre en compte la dynamique du patient, prendre en compte la dynamique de la famille, prendre en compte la dynamique de l'équipe. Hein. Et c'est vrai que tu as bien raison d'avoir insisté sur cet aspect-là. Psychanalyse familiale et groupale, c'est aussi prendre en compte le groupe qui s'occupe de la famille dans l'institution. Voilà, on va écouter maintenant Elisabeth Darchy qui va nous parler des contenances familiales, mais aussi, je crois, évoquer un peu plus son parcours avec Gérard et le livre que je vous inviterai tous à acheter avant qu'elle ne le fasse à son tour.
Voilà, je suis aussi émue de parler de Gérard. C'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à dire. Déjà, même le livre, j'ai l'impression que c'est qu'une esquisse. À un moment, je dis, Gérard avait-il le don de l'ubiquité, du dédoublement, de la multiplication? Il jouait sur tant de scènes. mais toujours dans une grande authenticité, vivre pleinement tant qu'il était encore temps. J'ai rencontré Gérard au début des années 70 dans un groupe de psychodrame animé par Génie et Paul Lemoine à l'époque, avant que j'aille faire du psychodrame au CEFRAP dans les années 80. Je me souviens déjà que Gérard, à travers les jeux qu'il proposait, m'avait laissé l'image d'un homme en quête de connaissances sur ses propres processus psychiques, mais surtout aussi sur les résonances groupales. Physiquement grand, élancé, psychiquement captivé, impliqué, s'étonnant sur les choses à voir, à entendre, à ressentir. Il m'avait fait penser à l'époque au personnage de Monsieur Hulot dans les films de Tati, avec déjà une certaine poésie et de l'humour, nous donnant cette sensation que l'inutile était aussi indispensable que fertile. La tonalité chez les Lemoine était lacanienne, mais l'archaïque surgissait dans certaines scènes qui nous surprenaient dans le groupe, au plus profond du groupe en tout cas. J'ai retrouvé Gérard lors de ses interventions sur la clinique du couple dans les années 80 à la FCCC, mais c'est surtout dans les années 90 que j'ai été proche de sa belle personne. Il a été pour moi un maître, un véritable ami, avec son écoute pointue, sa douce empathie, avec son rayonnement chaleureux. Il était discret, souriant, plein d'humour, il savait étonner, guider, enrichir. J'ai travaillé avec lui donc à Paris, à Lille, à Metz, à Auxerre, dans bien d'endroits, comme co-formateur, co-superviseur, co-thérapeute familial au centre Didier Anzieux qu'on avait mis en place avec la société régionale, ou encore comme co-psychodramatiste, notamment à Auxerre, et comme co-enseignant à l'université à Paris 10, puis à Paris 7, où on a été un peu fondateur du DU, soutenu par Christiane aussi. Nous avons partagé des goûts conjoints, notamment des stages de peinture dans un atelier à Paris. Gérard avait une véritable sensibilité artistique et de la lumière dans les yeux. J'ai tenté d'écrire plusieurs pages sur sa peinture avec qui j'ai beaucoup discuté avec lui. Ces tableaux, en effet, confirmaient une recherche intense de présence, de l'impalpable. Et sa création, donc j'en ai mis quelques tableaux dans le diaporama, mais vous pourrez lire un peu la critique que j'en fais aussi, positive. J'ai aussi bénéficié, comme quelques-uns, d'une écriture collective, donc avec Gérard, car il aimait écrire à deux mains, voire à trois, comme notre livre avec Laurence Knera, Souffrance dans la famille. Le thème de la transmission et celui des contenances familiales souffrantes nous ont mobilisés dans un intérêt partagé. Dans les années 80, j'avais travaillé sur les effets générationnels et sur les traces des traumatismes non élaborés qui ressurgissent au temps périnatal, notamment dans un article en 87 que j'avais intitulé « Retour de la mémoire en périnatalité ». Je me dis, ça fait écho avec le colloque aujourd'hui. Tous les deux, nous avons partagé nos recherches et travaillé sur ces organisations souffrantes, sur les contenances familiales pathologiques. Nous avons cherché à préciser la différence entre la fusion, la confusion dans les familles. Nous avons avancé sur la confusion générationnelle, la confusion parentale, la parentalité confusionnelle, ce qui nous a amené à trouver lumineusement un accord sur notre concept de parentalité confuse. Et par extension, génération confuse, famille confuse, grand-parentalité confuse. Notre concept de parentalité confuse nous semblait opérant. Et Gérard, ayant été contacté par le docteur Cassini à la journée d'études du groupe Haut-Normand de pédopsychiatrie sur le thème de la fonction paternelle, nous sommes partis en Normandie pour présenter en novembre 99, par contre, notre concept de parentalité confuse. Notre intervention, aspect clinique de la fonction paternelle, Télémaque à la recherche du père, reprenait le chemin de la petite enfance à l'âge qui mène à la parentalité ou qui en barre l'accès en raison des générations confuses. Alors, je peux revenir quelques phrases sur la définition de notre concept, qui montre en effet l'organisation des défaillances de la contenance familiale. Nous avions proposé de voir la parentalité confuse comme une forme particulière d'un fonctionnement confusionnel entre les générations. Ce concept décrit la confusion chez le parent entre son bébé interne et l'enfant réel. Lorsque dans son enfance, le parent n'a pas pu intérioriser une bonne contenance familiale avec un bon groupe interne, il se trouve en carence de parentalité interne pour gérer des angoisses infantiles qui le débordent violemment. Le parent se situe dans une relation narcissique avec l'autre et n'a pas beaucoup de distance avec ses parties bébés, qui se confondent avec son moi propre et surtout qui tendront à se confondre avec son enfant réel. Il présentera une parentalité confuse par manque de discernement entre les éléments internes et externes de la parentalité. Il s'agira de l'organisation d'un lien de survie visant à lutter contre une souffrance familiale ancienne. Cette organisation sera par exemple sur un versant de liens serrés dans la proximité pour ne plus se séparer. L'enfant tenu à proximité pour soigner le parent témoignera de la surcontenance familiale, un concept qu'on a bien développé avec Laurence, avec Gérard donc, et Laurence dans Souffrance dans, famille, dans la famille. Surcontenance familiale avec ses corollaires d'indifférenciation, d'emprise, de terreau pervers, d'incestuel, voire incestueux, paradoxaux. A contrario, la famille confuse peut s'organiser dans une mise à distance de l'enfant réel pour ne pas risquer de revivre les pertes. L'enfant lâché dans cet autre versant de la parentalité confuse ouvrira sur le concept de sous-contenance familiale. Les corollaires seront par exemple le lâchage, la carence, l'abandonnisme, si bien décrit par Laurence, et travaillé aussi avec André Ruffio sur l'abandonnisme. La parentalité confuse ouvre sur des contenances paradoxales et peut se retrouver au sein de liens paradoxaux. En conclusion, dans la contenance familiale confuse, les sujets organisent la famille en rapport avec leur premier groupe d'origine qui les a laissés dans le besoin vital de l'autre pour survivre. La relation d'emprise et le contrôle protègent du manque et maintient la famille dans l'indifférencié. Mais sans manque, il n'y a pas de place pour le désir et pas d'espace pour la rencontre. Avec Gérard, nous écrirons bien sûr plusieurs articles et ouvrages. Et le dernier livre qui vient de sortir, c'est vrai que je suis très triste qu'il n'ait pas pu l'écrire avec nous sur son parcours. J'espère qu'il aurait aimé cet ouvrage collectif. C'est vrai qu'il va nous manquer, mais cet hommage et son héritage vont le rendre toujours présent. Et peut-être en terminant ce soir, je vais peut-être garder un petit morceau de son humour en tentant d'aller le chercher dans les couloirs pour lui demander ce qu'il pense de notre colloque, de notre rassemblement, peut-être de notre table ronde.
Merci beaucoup, Elisabeth. Merci pour tout ce que tu as dit, puis merci pour tout ce que tu as fait aussi, hein, parce que si nous sommes ici réunis avec ce livre devant nous, dans nos mains, c'est parce que tu as pris l'initiative de lancer ce mouvement. Alors, ce mouvement, on vous en a donné quelques éclairages, nos éclairages personnels, mais alors, je crois que maintenant, ceux d'entre vous qui veulent prendre la parole pour apporter leur contribution à cet événement d'aujourd'hui, sentez-vous libre de le faire. Il y a des micros, vous voyez, sans fil, donc on peut vous le donner. Donc, qu'il s'agisse d'un souvenir, qu'il s'agisse d'une référence théorique, qu'il s'agisse d'un billet d'humeur, comme on dit dans le journalisme. Voilà, Roland va commencer.
Alors, c'est après tout ce que vous avez dit, c'est bien difficile d'ajouter des choses parce que c'est tellement positif. Je me demande si dans la salle, quelqu'un se demande, mais quand même, il avait bien des défauts, ce gars-là. Eh ben non, presque pas. En tout cas, après 22-23 ans de travail commun, le soutien qu'il a apporté à Lille pour que la psychanalyse familiale se développe là-bas, et groupale bien sûr, se développe sur Lille, sur la région Nord, a été très important, était fondamental bien sûr. Et pour faire, je me suis dit, mais comment faire une synthèse de Gérard? Et je me suis dit, et c'est là où je dis, il avait des défauts, mais il y a, si Serge s'est appuyé sur son nom et son prénom, je vais m'appuyer sur une phrase d'un Chinois qui s'appelle Lin Yutang, un écrivain du début du siècle dernier, et qui dit, la beauté, et là je m'appuie un petit peu sur ce qu'a dit Alberto aussi, la beauté à l'adolescence, à la jeunesse, c'est un hasard, mais à la vieillesse, c'est une œuvre d'art.
Alors Roland, tu ne crois pas si bien dire par cette fin de propos remarquable. Moi j'ai connu Gérard dans les années 84, où ayant une famille en thérapie, je me suis dit ben il faut que je me forme. J'avais fait une formation au conseil conjugal et familial offerte par Paris 7 au moment de mon DESS. Et je me suis dit là il faut y aller, et je dois dire que toi et Gérard m'ont permis de présenter la première fois à Metz, effectivement, cette thérapie familiale qui était la première. Comme on dit surtout aux étudiants en fin de formation, ne faites pas ça, choisissez une autre. Groupe de recherche sur le traumatisme, différents groupes de recherche. La STF-PIF, où on a été avec Didier Pilorge, secrétaire de Gérard, où il nous estimait, où il nous faisait confiance. On coécrivait ces comptes rendus il y a bien longtemps. Un groupe thérico-clinique pendant assez longtemps, où il a fallu un moment dire ben non, c'est plus possible, moi je m'arrête. Ça a été compliqué, c'était une décision je crois très réfléchie, on pourrait dire mature. Ça a été très difficile et ça a mis Gérard, je dois dire c'est vrai, en difficulté. Paris 7, c'était important. Tours aussi avec Jean-Pierre Dumont. Et en 2007, il m'a offert un petit ouvrage qui était en préparation, qui n'a pas fait le jour, qui n'a jamais été publié, qui s'appelle Petit Moi, Gérard de Cherf et Nézet, qui était André Sapolin. Et cet ouvrage a été conçu avec Gérard Blanchard, maître de conférence Marie-Danne-Marie, maître de conférence à Besançon, département de communication. Et dans cet ouvrage, il décrit quatre vies. La vie de l'enfance, un monde chaud, sensitif. Deux et troisième vies qui sont sur le mélange, la séparation, la compétition. Et la quatrième vie, le pays du soleil. Effectivement, vie nouvelle, où il n'est pas question de tout avoir, de tout savoir, de surmonter les manques de la vie. Voilà, Gérard nous manque, mais Gérard nous a transmis énormément de choses. Et souhaitons que nous puissions aussi les transmettre aux générations futures.
Je voudrais juste vous dire que la table de Impress là, est restée là. Si vous voulez encore avoir des livres, il en reste. Donc ils sont là. Hein. Non, parce que sinon on s'en va sans regarder les livres.
Je tiens à disposition, éventuellement pendant le colloque, cet ouvrage.
Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite dire un mot?
Evelyne voulait parler, elle est où?
Merci. Bon, évidemment, on pourrait rajouter beaucoup de choses et beaucoup de souvenirs reviennent à l'occasion de cet hommage à Gérard. Et c'est vrai que nous sommes tous ceux qui l'ont approché et touché. Mais c'est aussi une partie de son histoire qui commence, hein, que nous avons en héritage. Alors, bon, on pourrait rajouter à ce bouquet qui vient d'être fait beaucoup de choses. Moi, je vais vous rappeler quelque chose. C'est que c'est aussi lui qui est à l'origine de la Société française de thérapie familiale psychanalytique. C'est-à-dire qu'à la dissolution de la Psyché, dont il avait été vraiment, dans lequel il avait été très impliqué, au moment de cette rupture qui a été une très grande souffrance pour Gérard, hein, je crois que tous ceux qui le connaissaient à ce moment-là l'ont su, il s'est passé très très peu de temps avant qu'il me téléphone en me disant écoute, il faut qu'on fasse une société nationale. Bon, moi j'étais plus éloignée que lui de ce qui venait de se passer, pas seulement géographiquement, mais aussi moins impliquée parce que j'avais démissionné auparavant. Et donc, il me dit, il faut qu'on fasse une nouvelle association. J'avoue que j'étais pas tellement d'accord, hein, et que j'ai beaucoup hésité, j'ai demandé du temps pour réfléchir, etc. Bon, et il a gagné, bien sûr. C'est-à-dire que, contre vents et marées, et alors que c'était peut-être pas exactement le bon moment, à mon avis, pour faire cette fondation, c'est quand même lui qui nous a entraînés, parce qu'à partir de là, il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés, et beaucoup de ceux qui sont ici. Et qui nous a entraînés dans cette belle aventure de la société française, de la SFTFP. Et bon, il se trouve que j'en étais la présidente pendant les six premières années, et que, bien sûr, c'était lui qui était secrétaire général. Mais enfin, avoir Gérard comme secrétaire général, bon, c'était pas toujours très simple, je veux dire, trop facile. Pas uniquement des questions, parce que j'habite Marseille et lui Paris, hein. C'était à un autre niveau que se situaient certaines difficultés. Et mais de toute façon, il y a une chose quand même dont j'ai toujours gardé le souvenir. Nous correspondions à ce moment-là, il faut se replacer à l'époque, nous correspondions en 95, hein, c'est bien ça, nous correspondions par fax et par téléphone. Le fax, il y en a peut-être beaucoup qui savent plus ce que c'est, mais à ce moment-là, et Gérard il m'envoyait beaucoup, beaucoup de courriers avec son écriture, bon, peut-être pas toujours très lisible, hein, pour ceux qui l'ont connu, mais surtout sur du papier quadrillé. Et je n'ai jamais pu lui faire entendre qu'il fallait qu'il prenne du papier sans ligne et sans quadrillage, parce que le fax ne faisait pas de différence entre son stylo et le quadrillage qui était en dessous. J'avais un mal fou à déchiffrer tout ça. Voilà, donc on parlait du fait qu'il n'avait peut-être pas que des qualités, mais de toute façon... Il rattrapait toujours ça avec un sourire que j'entendais au téléphone. Bon, et j'étais toujours, comme d'habitude, complètement séduite. Et ça marchait. En tout cas, c'était un collaborateur avec lequel on a beaucoup partagé à ce niveau-là pendant très longtemps. Merci.
Oui, merci Evelyne. Un jour, il faudra qu'on écrive les débuts, en effet, de la Société française de thérapie familiale et de la Société de thérapie familiale psychanalytique d'Île-de-France. Oui, il y en a déjà un bon morceau là-dedans. Voilà. Et c'est vrai que l'histoire des institutions, c'est à la fois l'histoire de ses membres et l'histoire de ses conflits et l'histoire de ses constructions. Tout en fait partie. Voilà. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, Chantal.
Bon, il paraît qu'il faut que je prenne la parole, donc je prends la parole. J'avais pas prévu de prendre la parole parce que j'ai beaucoup d'émotions, qui a encore du mal à, mais on l'entend dans toutes les voix ici, qui est pas encore tout à fait élaborée, qui reste encore assez primaire. Et puisqu'on parlait des origines, j'ai eu l'immense plaisir et je crois dire presque l'immense honneur d'avoir été adoubée par Gérard. Je dis adoubée parce que il y a là quelque chose de la filiation. Et c'est une filiation qui remonte il y a bientôt 30 ans. Et nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, mais j'ai été formée aussi par Gérard de Cherf en psychodrame, dans la première mouture de la formation de thérapie familiale, où il y avait encore à la Psygé, où Alberto officiait déjà. Et lorsqu'il m'a demandé d'être membre fondateur, avec d'autres autour de cette table, de la société, ça m'a absolument sidérée. Et je me demandais... Qu'est-ce que j'allais faire de cette transmission? Est-ce que j'étais à la hauteur de cette transmission? Et nous avons beaucoup parlé parce qu'il était un voisin. Et Gérard faisait du vélo. Et il est arrivé qu'il sonne en bas de chez moi pour savoir si j'étais là. Et il n'était pas rare que nous faisions comme ça des échanges un peu impromptus, voilà, il posait son vélo, non, c'était pas un tandem, hein, c'était que hein, c'est un vélo. Et il y a eu ça qui m'a beaucoup marqué. Et puis, ce que je voudrais dire de Gérard, c'est que ce que je retiens de lui, c'est l'informel. C'est quelque chose qui est d'une immense intensité, mais qui ne dit jamais son nom. Il a beaucoup, beaucoup transmis pour moi, il m'a beaucoup donné dans ce qui est dans l'interstice des rencontres. Il y avait une rencontre, on a beaucoup voyagé ensemble parce que nous avons travaillé des années ensemble en province, et c'était toujours dans ces moments dans le train où il racontait beaucoup d'anecdotes personnelles. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que Gérard était grand, Gérard était plus âgé, Gérard aurait pu être mon père, et ce que j'entendais et ce que j'entends encore, c'est le petit garçon. Il y a quelque chose en lui, d'un infantile, qui m'a toujours bouleversée. Il était en contact avec ce petit garçon qui, on peut le dire, n'a pas toujours été très heureux, eu égard aux circonstances de la guerre, par pas un manque d'amour. Et ce petit garçon-là, il était extrêmement vivant, extrêmement présent. Et enfin, alors j'associe comme ça, hein, mais il a été aussi tout près de moi lors de ma dernière grossesse pour mon enfant, le dernier, qui a maintenant 17 ans. Et il était extrêmement précautionneux avec moi. Alors j'étais un peu jalouse, parce que ce n'était pas avec moi qu'il était précautionneux. C'est avec le bébé que je portais. Merci.
Une autre... Oui, madame.
Oui, juste un mot pour donner suite à ce que nous dit Chantal sur les failles possibles d'un être qui nous est cher. Il nous parlait notamment de lui de temps en temps. Après l'occasion d'une supervision, une petite anecdote ayant repris, par exemple, et nous ne le savions pas, mais une tranche d'analyse à un âge avancé. Il faut savoir que cela pouvait animer sa vitalité et sa grande expérience psychanalytique. Comme si nous avions à reprendre, à recommencer toujours quelque chose de l'analyse première. C'est ainsi qu'il était psychanalyste, avant même toutes les compétences qui lui ont été attribuées aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.
Ben, j'en profite pour dire aussi un mot. Bon, c'est un peu particulier parce que M. Decherf était mon analyste. En fait, j'ai été en analyse avec lui en 1980, donc il y a très longtemps de ça. Et évidemment, c'est très difficile de voir l'analyste derrière les questions du transfert. J'ai l'image d'un arbre qui cache quelqu'un, et puis de temps en temps, on voit apparaître une main ou une tête parce que lui regarde quelque chose de plus précis. Et du coup, là, on le voit. Et je voulais juste dire quelque chose qui m'a beaucoup émue. Quand j'ai commencé donc mon travail analytique, j'étais très préoccupée par l'idée que le psychanalyste s'endorme pas derrière moi et ne fasse pas que du griffonnage stupide derrière. Et donc je lui avais dit, Monsieur Decherf, je voudrais que vous n'écriviez pas et que vous vous rappeliez de tout ce que je vous dis. Et je le questionnais parfois pour savoir s'il avait bien retenu, s'il se rappelait, et il se rappelait. Et le fait qu'il ait posé quand je lui ai fait ma demande, il a posé son cahier, son stylo qu'il avait l'habitude de faire. Il a tout posé et il ne m'a pas interrogé dans un premier temps sur pourquoi je lui demandais ça, mon expérience avec ma famille, blablabla. Il a accepté de le faire sans rien dire. Et ce moment de délicatesse extrême me fait penser à la beauté dont vous parliez dans ces tableaux, avec une sorte de vide et de finesse qui était extraordinaire et qui est dans la beauté. Merci.
Quelqu'un d'entre vous souhaite encore prendre la parole ? Oui ? Henri-Pierre.
Ça marche. Oui, je ne vais pas être très long. Parce que je, comme disait Chantal tout à l'heure, quand je pense à Gérard, je suis assez ému comme un peu vous tous. Parce que ce qui reste d'un homme, quand il est parti, c'est la question de la bonté ou du mal. Et en ces temps troublés, où la barbarie pointe son nez, pour moi, Gérard reste quelqu'un de lumineux. Je l'ai écrit dans l'ouvrage. Pourquoi était-il lumineux ? Bien parce qu'il accueillait, voilà, là où les personnes étaient. Et pour moi, je ne l'ai rencontré pas du tout. Je l'ai rencontré d'abord pour le journal des psychologues, pour des publications qu'il avait faites. Et ensuite, nous sommes devenus amis. Et d'une manière tout à fait élégante, il m'a transmis quelque chose. Donc, je l'ai connu déjà parce que je participais au groupe de supervision avec Gérard Decher et Jean-Pierre Caillot à l'époque. Je n'ai pas assisté à la scission. Mais je l'ai retrouvé ensuite à la thérapie familiale psychanalytique de France. Et peu à peu, bien, par exemple, cette transmission a été subreptice, mais très intense, et c'était une façon de me reconnaître sans le dire ouvertement, parce que bon, il a travaillé comme 20 ans au plus avec Roland sur le psychodrame, autour de l'activité de psychodrame, et il m'a passé le relais. Et quand j'y ai pensé après coup, je me suis dit que c'est d'une grande élégance de l'avoir fait en ces termes. Donc, vraiment, je suis très content que ce soir on lui rende hommage, parce qu'il le mérite. La grandeur, c'est d'abord d'être humble.
Encore une intervention, un mot, une remarque, oui.
Juste un petit mot. J'étais en train de me dire, je pensais, il y a quelque chose en lui de Tennessee. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui qui nous permettait d'avoir la présence des gens importants pour nous, des gens importants comme Didier Anzieux. C'est clair qu'il y a dans cette continuité de cette présence de l'humour à la fin des colloques dont on a parlé, on était en même temps dans les mots de Didier Anzieux, on était en même temps avec tout l'apport et le caractère d'André Ruffio, tous ces personnes-là. Et je crois que, enfin, moi j'étais très sensible à ce qui a été dit sur cette dimension de l'infantile qu'il était capable de porter. Voilà. Et cette délicatesse de l'infantile, cette sensibilité, cette esthétique de l'infantile, hein, et tout ça, c'est très beau. Et permettez-moi de remercier à la fois toutes les personnes présentes qui ont rendu cet hommage, et vraiment tout particulièrement Elisabeth Darchy, pour lequel vraiment la fidélité d'une telle amitié, c'est merveilleux, c'est formidable.
Une intervention encore. Non, pas de repentir. Bien, écoutez, pour ma part, ben, je voulais tous vous remercier d'être restés pour cet hommage collectif. Alors, on ne va pas fonder une église, hein, mais pourtant, c'était important quand même, je crois, de nous donner ce temps pour reconnaître ensemble tout ce qu'on doit à Gérard. Et je suis comme Ben Gozzi, je trouve que ce que j'en garderai de plus cher, hein, c'est le regard étonné et attentif à la fois qu'il portait sur le monde. Et je crois que c'est une leçon, quelle que soit la compréhension qu'on ait de son travail théorique, l'intérêt qu'on y trouve, de sa peinture, etc. Je trouve en effet que ce regard étonné, attentif sur le monde est vraiment une grande richesse que nous devons chercher à garder vivante en nous. Et s'il peut nous y aider chacun, eh ben, c'est une belle continuité que nous allons assurer avec l'importance qu'il a eue pour chacun d'entre nous. Merci encore à tous et bonne continuation.